technique des griffures. La passion monte et dans l'excitation, se servir des ongles pour griffer. Au premier temps de la rencontre, au retour d'un voyage, avant de partir en voyage, après la colère, dans l'ivresse et la folie de la passion. Mais pas toujours, ni sans violence. Même chose avec les dents pour blesser si on le supporte. Liste des 8 marques faites par les ongles. La chair de poule, la demi-lune, le mandala, la ligne, la griffe du tigre, la trace du paon, le saut du lièvre, la fleur de lotus. Et où ça? La poitrine, les seins, le cou, le dos, les fesses, les cuisses. Mais pour ceux qu'emporte la roue du plaisir, il n'y a plus d'ici ou là, d'Issou Varnanaba. Mu par une violente pulsion, avoir les ongles de la main gauche fraîchement taillés en 2 ou 3 pointes. Qualité des ongles, unis et réguliers, brillants et propres, intacts, solides et luisants. Pour les habitants de Goda, des ongles longs sont des bijoux qui séduisent les femmes. Les gens du sud ont des ongles courts capables de tout faire et de toutes les formes. Les gens du Maharashtra ont des ongles moyens avec toutes les qualités des autres tailles. Pour la chair de poule, passer légèrement tous ses ongles sur les seins, les joues, les lèvres, sans faire de marque et par le seul contact, provoquer le frisson tout en faisant crisser les ongles entre eux. Lui frotter le corps, lui gratter la tête, lui percer ses boutons pour la troubler, pour l'effrayer. Pour la demi-lune, faire avec les ongles une marque arrondie sur le cou et au-dessus des seins. Deux de ces marques, l'une en face de l'autre, forment le mandala. À faire sur le pubis, sur le creux des reins, entre les cuisses. La ligne, sans être trop longue et n'importe où. Trace courbe jusqu'au mamelon d'un sein, c'est la griffe du tigre. Une ligne des 5 doigts sur le bout des seins, c'est la trace du paon.
Frédéric Boyer, quelle est la qualité de vos ongles?
Bon, mes ongles ne sont pas bien, ils ne sont pas faits pour faire tout ça là-bas.
La trace du paon, rien de tout ça?
Non, rien de tout ça. Pas les ongles.
Est-ce que l'amour c'est un combat? Parce qu'on a commencé par les griffures, il y a aussi les morsures dans le Kama Sutra.
Il y a une part de ce qui est raconté dans le Kama Sutra, effectivement, qui est de l'ordre de la lutte et du combat, qui est une lutte égale, ce qui est à souligner. C'est un texte ancien, c'est un texte du 3e, 4e siècle. Et il est dit, effectivement, il est dit à la femme, tu rendras coup pour coup, baiser pour baiser, griffure pour griffure. Voilà, donc oui, effectivement, il y a une part de ce jeu qui est un combat, mais ça ne se résume pas à un combat non plus.
Est-ce qu'il y a une part de mise en scène?
Oui, parce que enfin, tout ce texte est écrit à une époque où le théâtre sanskrit au 4e, 5e siècle prend une ampleur importante. Et c'est une de mes hypothèses, c'est que ce texte est écrit effectivement à partir des textes de théâtre de l'époque pour essayer de mettre en scène l'amour comme un jeu théâtral avec ses répliques, ses danses, ses gestes, ses situations et ses personnages, puisque on retrouve dans ce texte, ce qui est de très étrange, on retrouve dans ce texte les grands personnages, les grands rôles du théâtre traditionnel de cette époque, mais qui sont aussi des rôles du théâtre universel, qui sont le bouffon, le complice, et qui sont une sorte d'adjuvant, effectivement, dans la quête amoureuse et dans le jeu des plaisirs.
Bonsoir à tous. Comme vous le savez, Apostrophe est une émission qui a toujours lieu en direct. De sorte que maintenant, au moment où je vous parle, je ne sais pas trop ce qui sera dit très précisément au cours des 70 minutes qui viennent. Simplement, il se peut que des choses pas très convenables soient dites. Et au fond, je ne saurais trop conseiller aux enfants et puis à toutes les personnes qui ont les oreilles chastes de renoncer à cette émission.
On va attendre que toutes les oreilles chastes aient renoncé à cette émission. Quelques secondes. Avant de parler d'orgasme, Constance Larieux, le mot est apparu en quelle année?
On va dire en 1611. C'est vraiment le terme orgasme, oui, qui est apparu.
Et qu'est-ce qu'il signifie?
En fait, jusqu'à présent, il avait surtout été relié à l'hystérie. L'inflammation ou la blessure, c'était vraiment une maladie. Et ça a été le cas pendant 2500 ans. Hein. Donc la définition moderne de l'orgasme est apparue beaucoup plus tard. Et alors, elle est multiple. Hein. On va en parler, j'imagine, tout au long de cette soirée.
Frédéric Boyer, exactement comme un cheval fou.
Oui, c'est un des vers du Kama Sutra pour essayer d'expliquer qu'effectivement, le texte, finalement, l'idée, c'est de savoir quelle est la connaissance que l'on peut avoir du plaisir dans la vie. Et l'importance même de l'accès à cette connaissance. Et si on n'accède pas à cette connaissance, effectivement, le risque, effectivement, c'est de s'emballer comme un cheval fou et de finir dans la mort, dans la destruction. Voilà. Quant à l'orgasme, je tiens à dire que dans le Kama Sutra, l'orgasme est défini. Et alors, le mot en sanskrit n'est pas orgasme parce que le mot n'est pas là en sanskrit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît dans un texte du 3e, 4e siècle de l'Antiquité, effectivement, l'orgasme féminin. Et d'ailleurs, il y a toute une discussion, dès les débuts du Kama Sutra, il y a une discussion sur, oui ou non, est-ce que ce plaisir féminin existe? Et oui ou non, est-ce que ce plaisir féminin est l'égal du plaisir masculin? Et la conclusion du Kama Sutra, c'est que c'est oui. Voilà.
On va entrer sur une planète rose, une rose planète, elle ressemblerait à quoi? Nicolas, comment si on transforme le studio en rose planète, la vôtre?
J'allais dire à une paire de fesses, mais c'est un peu déplacé. En même temps, vous avez fait sortir les enfants, donc.
Après l'avertissement, tout est possible. Ou une paire de fesses. Il est 23h et l'atelier intérieur revient exactement comme un cheval fou. Il revient parce qu'il y a eu un silence, un vide. Il y a eu 28 jours de grève à Radio France. Et nous célébrerons ce soir ce que nous avons défendu, la radio publique, la radio physique, la radio vivante qui prend le temps de l'expérience. Il est 23h et l'atelier intérieur s'ouvre au Kama Sutra, à l'idée d'un mode d'emploi. Vient alors la question, est-ce que le plaisir s'enseigne? Est-ce qu'il existe des règles? A-t-on besoin d'un guide pour savoir comment se tenir, comment emboîter deux corps, comment s'aimer? Ovid, dans ses amours, écrivait « Un homme et une femme, ce qu'ils ont à faire, ils l'apprennent seuls et sans maître ». Est-ce que l'amour, c'est autodidacte? Est-ce que s'embrasser, on l'apprend seul? Frédéric Boyer réanime les langues mortes ou perdues, les langues passées qui peuvent nous rendre la vie. Il traduit du sanskrit ce qui a été écrit il y a 1500 ans, « L'ombre gigantesque du plaisir sur nos vies », dit-il. L'image de départ ce soir serait celle-là, deux béliers au combat, deux boules d'un jeu, deux boxeurs qui s'affrontent. Ce sont les images du Kama Sutra, geste pour geste, coup pour coup et baiser pour baiser. Faire l'amour est un combat, écrit son auteur Vatsyayana. Le mot Vega en sanskrit, c'est le torrent, la rapidité, l'élan, la pulsion violente. Pour orchestrer, pour ordonner, dans le Kama Sutra, on dresse des listes, les types de baisers. Il y a des cris au nombre de 8, geindre, gronder, piailler, griller, pleurer, sangloter, hurler, soupirer. Et pour la femme, un choix de gémissement. La colombe, le coucou, le pigeon, le perroquet, l'abeille, le rossignol, le cygne, le canard, le sauvage, la perdrix. Le canard sauvage, la perdrix. Tout est consigné, c'est donc une partition sonore. Il y a des titres de chapitres qui sont comme ceux de nos vies, le désir de connaissance, l'empreinte d'un chagrin. Il y a aussi ce qui nous est commun à tous. Des mots, rédigés en sanskrit il y a 1500 ans dans le nord-est de l'Inde, nous disent comment faire pour nous embrasser. Ce n'est pas un mode d'emploi, ce sont des mots, et par la parole, la suggestion, on invente sa propre façon. Ce sont des phrases à enfiler de façon brève, sans s'y attarder. On aurait dû faire cette émission il y a un mois, dire ces mêmes mots par les kamas et sutras. On aurait été en mars, nous sommes en avril. On a fait notre printemps, le temps a passé. Ce sera la même émission et pas tout à fait. Il y aura au cœur de tout et dans chaque phrase notre amour de la radio. Et si l'amour est un combat, on veut croire qu'on le gagnera.
So we'll make love in the grass and dye the moon. No one can tell, don't be fight you.
Ce soir, pour remettre le plaisir au centre, le romancier Frédéric Boyer, après avoir remis en littérature la Bible, traduit les confessions de saint Augustin, nouvelle traduction du sanskrit, Kamasutra, exactement comme un cheval fou, paru aux éditions POL. Le Kamasutra comme un long poème dont la comédienne Marie Payen lira des extraits. Constance Larieux a lu et donne sur scène sa version de la fonction de l'orgasme du psychanalyste Wilhelm Reich. Enfin, puisque l'on parle de l'emboîtement de deux corps, on entendra la voix d'une créature double, Tom et Conchita Wurst. Elle a gagné l'Eurovision en femme à barbe et elle était de passage à Paris. À la musique, Nicolas Comment fait du studio une rose planète ou une paire de fesses. Rose Planète, c'est le titre de son disque. Enfin, Amélie Bonin dessine griffure, morsure, baiser. Elle dessine l'émission en studio. Le chemin ce soir part du désir, ira jusqu'à l'orgasme. Nous sommes de retour et bien vivants.
La fleur, puisque nous sommes dans le sujet ce soir, la fleur, c'est l'amour parfait.
Total, dites-vous.
C'est l'amour total et parfait. Lorsque vous vous penchez sur une rose pour la respirer, vous n'avez jamais pensé que vous étiez en train de respirer un sexe. Vous en respirez même deux.
Ah oui, ça t'est déjà venu à l'idée.
Deux sexes qui sont en train de faire l'amour. Et Dieu sait si ça sent bon. C'est parce qu'il n'est pas le cas toujours dans les autres ébats.
Et oui.
Je crois que le mythe du paradis perdu chez l'homme doit être un vague souvenir qu'il a du temps où il était arbre. Parce que son malheur a commencé à partir du moment où il est devenu ambulant et où on l'a séparé en deux, d'un côté la femme, de l'autre côté l'homme, et depuis ce temps-là on se cherche et on se trouve très rarement. Tandis que la fleur se trouve, elle est là, elle est entière, elle est à la fois mâle et femelle, et quand vous êtes au printemps, vous rencontrez un arbre en fleurs, tout à coup vous êtes extasié, un cerisier, et vous ne vous rendez pas compte que cet arbre qui a 1 million de fleurs est en train de faire l'amour 1 million de fois.
Non, je vais regarder les cerisiers autrement maintenant.
Mais ce qu'il y a de merveilleux, c'est que ce million d'amour deviendra 1 million de cerises, n'est-ce pas?
Oui, heureusement.
C'est une réussite. C'est pas toujours aussi bien réussi chez l'homme.
La grande ouverture, tête renversée, sexe soulevé. Cette position doit favoriser le va-et-vient. Le bâillement, cuisse levée et écartée pour recevoir. La reine du ciel, jambes écartées autour de son torse et genoux sur la poitrine, exige de la pratique. Position idéale avec un amant aux mensurations plus importantes. Si le sexe de l'amant est plus petit, la femme s'emboîte avec lui. Et dans ce cas, pour une femme éléphant, il y a l'emboîtement, le tourment, l'enroulement, la jument. L'emboîtement, les deux amants allongés, les deux jambes tendues. Deux variantes possibles, emboîtées sur le côté ou emboîtées sur le dos, selon la façon de s'unir. La femme toujours à droite quand lui est sur le côté et c'est valable pour tous. Le tourment, une fois qu'ils sont emboîtés, l'homme resserre les deux cuisses de la femme l'une contre l'autre. L'enroulement, la femme croise les cuisses. Pour la jument, avec de l'expérience, la femme retient cruellement son amant, comme font les juments. Et généralement pratiquée par les femmes du pays Andhra. C'était les différentes positions selon ceux qui suivent Babareva.
Frédéric Boyer, l'homme a cessé d'être un arbre, comme dit René Barjavel, et le problème commence là. Il y a un homme, il y a une femme.
Voilà, enfin, il n'y a pas qu'un homme et une femme. Hein. dans le Kama Sutra, enfin, en tout cas, on est dans l'Inde ancienne, entre le 3e et le 5e siècle, et effectivement, les choses sont très 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 ouvertes. C'est-à-dire, il n'y a pas que l'homme et la femme, il y a aussi entre les femmes, entre les hommes, et avec plusieurs femmes, plusieurs hommes. Et tout. Le Kama Sutra dresse toute une série de possibilités dans la quête du plaisir et dans l'effectuation des plaisirs. En même temps, ce qui est d'une certaine façon bouleversant, c'est que tout se passe dans le langage et que le langage est là pour essayer de restituer quelque chose, à mon avis, qui est un monde perdu. C'est un texte d'une immense nostalgie, parce que c'est un texte qui essaye de raconter une connaissance possible à travers le langage de ce qu'est le plaisir. Donc effectivement, il va jusqu'au bout des choses, il va essayer de donner les listes de tout ce qui est possible, les listes des baisers possibles, des griffures, des positions, mais aussi les listes de tout ce que vous devez avoir chez vous dans une maison si vous vous installez pour avoir une maison de plaisir, les listes aussi de toutes les femmes possibles, de tous les amants possibles, de tous ceux qui sont possibles, pas possibles, etc. Et à la fin, cette exigence de la parole, elle touche une émotion, c'est-à-dire qu'elle touche le moment où la parole finalement n'arrivera pas à dire le monde, à dire la totalité du monde et la totalité du possible du monde. Voilà. Et c'est en ce sens que ce texte est d'une grande poésie, c'est ce que j'ai essayé de rendre, c'est-à-dire ce moment où le langage échoue à dire la totalité du possible.
C'est une confrontation entre Vega et Dharma.
Exactement.
C'est-à-dire, c'est-à-dire le torrent,
voilà, cet élan. Vega, ça veut dire, en fait, c'est le flux du torrent, mais qui dit aussi la passion, qui dit aussi l'emportement, etc. Et c'est un mot qui revient sans cesse dans le Kama Sutra. Et c'est une sorte de mot c'est le mot qui fait peur, puisqu'à la fois, il faut essayer de canaliser par la parole cet emportement et ce courant, ce torrent, cette force du désir. Et c'est en bon sens brahman, si vous voulez, dans le sanskrit, l'idée c'est que la langue effectivement va dominer le monde et va dominer effectivement même le désir, le plaisir, la pulsion. Le mot moderne pour Vega serait pulsion. Et en même temps, on n'y arrive pas. Et à chaque fois, on revient dans le texte sur cette idée que finalement, on a beau tout raconter, finalement, en racontant, on atteint un seuil où tout n'est plus possible, la roue du plaisir emporte les amants, et là il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus de parole possible, il n'y a plus de texte possible.
On ne peut pas tout discipliner par la parole.
Non, et c'est l'angoisse de ce texte, voilà. C'est l'angoisse de ce texte, et c'est en ce sens que c'est très beau. D'ailleurs, ce texte dit, alors avec une certaine ironie, une certaine parodie, c'est un texte aussi qui est très drôle, j'en fais quelque chose de dramatique, c'est vrai, mais c'est aussi un texte assez drôle, ne serait-ce que par ces listes.
On a un peu entendu, ne serait-ce que, oui, par les listes, les mots.
Mais c'est drôle aussi, vraiment drôle, comme au théâtre. Hein, c'est-à-dire, il y a un passage assez comique. Il y a un chapitre sur le harem, en disant donc aux hommes, il faut absolument entrer dans un harem, évidemment. Donc, comment faire? Alors, le texte raconte toutes les possibilités d'entrer dans le harem. C'est très, très sérieux. Il faut voir là où il y a des brèches dans le mur, le garde que l'on peut corrompre.
Ce qui est drôle, etc. C'est cet art du détail.
Voilà, l'art du détail. Et puis, à un moment donné, on dit, il y a une formule magique, en gros, pas vu, pas pris. Donc, on donne la formule et on dit, voilà, mais il est possible que cette formule ne marche pas, donc creuse un tunnel. Et finalement, voilà, c'est une espèce d'ironie à chaque fois qui est assez belle dans le texte.
Qu'est-ce que vous connaissiez du sanskrit ?
Je ne connaissais pas grand-chose, mais je m'y suis mis il y a 6-7 ans, voilà, tout doucement, voilà, avec des gens qui le connaissaient.
Comment on trouve une langue d'aujourd'hui qui puisse... comment on fait la jonction entre la langue d'aujourd'hui en 2015 et le sanskrit d'il y a 1500 ans?
D'abord, le sanskrit, ça fait partie de ces langues qui nous ont créées. Hein. Même si il ne s'agit pas de revenir au mythe d'une langue unique, hein, mais le sanskrit participe effectivement de la formation des langues que nous parlons. Par exemple, le latin est assez proche du sanskrit, l'allemand est assez proche du sanskrit. Et donc, l'idée, c'est que cette langue, contrairement à ce qu'on en a fait au 19e siècle, quand tous ces textes ont été redécouverts, notamment le Kama Sutra, on en a fait une langue, dans les traductions des langues européennes, on en a fait une langue extrêmement exotique, volubile, alors que pas du tout. Dans le sanskrit, il y a, comme dans l'hébreu d'ailleurs, et d'une certaine façon comme dans le latin, il y a un art du bref, il y a un art de la concision, et le sutra, c'est-à-dire ce verset, était un art de l'écriture, de la brièveté et de la rapidité, de la concision. Voilà, donc moi j'ai essayé de rendre ça et de rendre aussi le côté un peu poésie concrète, parce que c'est lorsqu'on vous fait la liste de toutes les graines qu'il faut acheter, de toutes les plantes qu'il faut planter, de tous les objets que vous devez avoir chez vous, ça va du luth suspendu à une corne d'éléphant, en passant par une table à jeu, une table à dés, du bétel, du parfum, des choses. Voilà. Et donc c'est cette poésie-là que j'ai voulu restituer dans une langue qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas du tout orientalisante, mais c'est une langue extrêmement précise et extrêmement qui exprime un art de la concision.
Quand on pense au Kama Sutra, on pense souvent à une liste de positions, de possibilités. On pense rarement justement à un long poème et qui est beaucoup plus large que ces positions. On en a entendu quelques-unes, mais c'est un manuel de vie.
Tout à fait. D'abord, les fameuses positions, c'est dans un chapitre, et encore, c'est à l'intérieur d'un grand chapitre. Il n'y a pas que les positions, il y a les baisers, les griffures, comme on a entendu tout à l'heure. Et sinon, c'est 7 chapitres qui ne parlent pas que de ça, et qui parlent effectivement d'une sorte d'art de vivre, et qui essaye de restituer un monde perdu. C'est la nostalgie d'un monde du plaisir. Parce que l'idée centrale de ce texte, qui est une idée qui se pose à nous aujourd'hui, qui est de dire, est-ce que vraiment, on peut atteindre une connaissance du plaisir? Et comment inscrire cette connaissance du plaisir dans la question de l'existence et dans la question de la connaissance tout court? Voilà. Est-ce que le plaisir fait partie de la question de la connaissance? C'est une grande question, qui est une question qui a été posée tout le temps. Et ça pose plein de petites questions qui sont traitées dans le Kama Sutra. Par exemple, est-ce que, hommes et femmes, nous sommes égaux devant cette question de la connaissance du plaisir? C'est le grand débat qui ouvre le Kama Sutra. Vatsyayana répond oui, alors que la tradition de son époque répond non. Mais c'est une question qu'on retrouve par exemple dans le Talmud, hein, où effectivement on demande dans le Talmud, est-ce que les femmes ont accès à la connaissance du Talmud? Est-ce que les femmes ont accès à la connaissance de la Torah? Eh bien, certains rabbins disent non, d'autres oui. Voilà, c'est la même chose. C'est est-ce qu'on a accès à la connaissance? Qui a accès à la connaissance? Comment faire? Et donc ça pose des tas de questions, et finalement ça pose la question de l'organisation d'un monde, et d'un monde partageable et possible. Et là, sur la question du plaisir, c'est la question peut-être la plus haute, puisque chacun sait que dans la question du plaisir, il y a une espèce de feu qui peut prendre et que personne ne peut éteindre. Et c'est ça l'angoisse de ce texte, et l'idée que la parole peut domestiquer un feu intérieur, un feu qui peut tout emporter également. Et qui emporte la parole aussi, c'est ce que dit le Kama Sutra à la fin. Il y a quelque chose de très drôle, c'est au bout du 6e chapitre, l'auteur Vatsyayana, enfin l'auteur putatif, dit « Écoutez, maintenant je vous ai tout raconté, vous savez tout sur le plaisir ». Et puis après il dit « Mais peut-être ça ne suffit pas ». Et donc il y a un dernier chapitre, le 7e chapitre, ce ne sont que des formules magiques, incompréhensibles pour nous aujourd'hui, et même à mon avis à l'époque c'était déjà... il y a une série de formules pour faire grossir son sexe, séduire l'autre, envoûter l'amant ou l'amante, etc. Et il y a une espèce d'excès de la liste, effectivement, pour essayer de répondre à la question impossible, et même cet excès de formules magiques aboutit à une sorte de poésie impossible, où finalement on conclut, et d'ailleurs ce que dit Vatsyayana à la fin, il dit « mais finalement moi j'ai écrit tout ce texte dans un état de chasteté totale et absolue, et finalement si tu veux réussir ta vie d'amant et ta vie de plaisir, tu dois essayer de mettre à distance l'objet de ton plaisir. » Voilà, c'est la fin du texte, donc c'est un peu différent de ce qu'on peut imaginer.
C'est vrai qu'il y a la frustration est très présente aussi, l'absence de l'être aimé, la frustration, le chagrin et finalement le caractère assez déchirant de la sexualité.
Il y a un passage, un très beau passage où il liste les 10, toujours dans les listes, puisque l'idée de... En hindouisme ancien, la liste, la taxinomie est une façon d'appréhender le monde. Hein. Donc l'auteur dit qu'il y a 10 choses qui sont terribles dans l'amour, et il liste, et c'est des choses que nous connaissons tous, enfin... J'espère pas tous, mais les connais tous. Anéantissement, destruction, obsession, fantasme. Voilà. Et il liste les 10 erreurs de l'amour. Quoi. Et effectivement, c'est un texte d'une grande poésie qui essaye de prendre dans la parole tout le possible du plaisir et du désir, et qui en saisit finalement sa fragilité et le bord terrifiant parfois du désir.
Hat rukda 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 ya, phir bhi chukda 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 ya, soch uthte si si.
Elle éprouve une sensation dès le début de la relation et sans interruption. Mais pour l'homme, ce n'est qu'à la fin. Rien que de très normal. Sans éprouver de sensations, aucune fécondation ne serait possible pour ceux qui suivent Baba Reva. Mais ce point aussi est sujet à caution, il y a objection. Et l'objection est, si la femme atteignait son plaisir sans interruption, on n'observerait pas au début son indifférence ni ses douleurs, mais qu'elle s'anime progressivement dans l'union sans égard pour son corps, et que pour finir, elle désire arrêter touchant au but. Objection. Tout se passe comme le tour d'un potier ou une toupie qui commence à tourner faiblement puis accélère graduellement pour s'arrêter. Et l'envie d'arrêter vient avec l'émission du fluide corporel. Pas d'objection donc. C'est une même sensation qu'éprouve la femme. Le plaisir de l'homme vient à la fin en se soulageant, mais le plaisir de la femme est constant. Et son envie de s'arrêter s'explique quand cesse l'émission du fluide corporel. On voit bien que la manifestation du plaisir est la même chez la jeune fille que chez l'homme. Comment deux êtres de même type et tendus vers le même but auraient une expérience différente? À moins que leur jouissance ne soit différente, que leur désir ne soit différent. Et comment leur jouissance serait différente sinon par leur nature? L'homme, c'est l'action et la jeune femme, la destination.
Frédéric Boyer, il y a aussi cette idée que la femme participe complètement, activement à la vie sexuelle et n'est pas forcément justement une destination passive de la sexualité de l'homme.
Voilà, alors c'est quelque chose qui a été souligné récemment d'ailleurs dans ce texte, qui est assez finalement singulière, puisque on est dans une société qui est extrêmement patriarcale, hein, quand même, l'Inde brahmanique ancienne. Il s'est dit aussi dans le texte, c'est-à-dire la femme épouse un homme et son époux est son dieu, hein, en sanskrit le pati, c'est-à-dire à la fois le dieu, le maître, et c'est lui qui décide de tout. Et en même temps, ce texte, effectivement, montre une femme extrêmement active. D'abord, c'est une femme qui gère sa maison, qui gère son savoir, puisqu'elle a accès à la connaissance, ce qui n'est pas le cas. Si vous lisez les grands sastras, on appelle les sastras, c'est-à-dire les grands textes d'enseignement de l'hindouisme ancien, la femme n'a pas accès à cet enseignement. Voilà, c'est l'homme. Et l'homme peut donner à la femme une part de cet enseignement, mais elle n'a pas directement accès à cet enseignement. Or, dans le Kama Sutra, c'est le seul texte de l'hindouisme ancien où on dit aussi la femme doit lire et apprendre cet enseignement. Et effectivement, dans les jeux de l'amour, la femme est extrêmement volontaire et un sujet actif. D'abord, on lui reconnaît ce qu'on vient de lire là. On lui reconnaît la jouissance, qui est... Il y a peu de textes dans l'Antiquité qui reconnaissent la jouissance féminine comme une question et une possibilité à l'égal de la jouissance masculine. Et ensuite, surtout...
Elle peut être aussi manipulatrice, elle peut aussi...
Et elle peut être, voilà, ça c'est le côté théâtral du texte, c'est-à-dire que la femme, c'est elle qui guide les jeux. Et elle est manipulatrice, effectivement, elle peut avoir plusieurs amants en même temps. Il est dit, effectivement, tu ne dois avoir qu'un seul homme et tout ça, mais il y a quand même des exceptions, puisque toute la logique hindoue, c'est la question de l'exception. Donc on met une loi, c'est-à-dire tu n'auras qu'un seul homme, et puis après, mais il peut y avoir des exceptions. Après, suit une liste d'exceptions innombrables, où vous avez le choix de trouver votre exception personnelle. Et donc c'est... Et tout est comme ça. Et ensuite, surtout, il y a un chapitre très important, qui est un chapitre sur la prostitution, où effectivement, à l'époque, alors dans cette société-là, la prostitution était reconnue comme une activité à part entière, et puisque certaines cités de l'Inde ancienne étaient réputées pour leur communauté de prostituées, qui étaient des communautés indépendantes, avec une reine et avec une autonomie communautaire par rapport à l'ensemble de la cité. Et là, le chapitre est très intéressant, puisque c'est assez comique, mais c'est très particulier, c'est-à-dire on a tout un chapitre pour expliquer comment une femme peut gagner de l'argent avec un homme, et là aussi on a toute une série de possibilités, et l'homme finalement apparaît comme un peu comme un objet, et il est plutôt le dindon de la farce que le sujet de l'amour.
Voilà. Constance Larieux, on va en parler, mais Wilhelm Reich met au même niveau l'orgasme féminin et l'orgasme masculin.
Oui, exactement. Il ne fait pas de différence du tout entre les deux orgasmes. Et justement, c'était aussi assez révolutionnaire à cette époque-là, puisque les psychanalystes, Freud en particulier, faisaient un distinguo très fort entre l'orgasme féminin et l'orgasme masculin.
Nicolas Comment, puisqu'on est dans les listes, la liste de vos planètes, elle ressemble à quoi?
Vaste question. Non, mais j'entendais le mot Vega tout à l'heure, c'est une étoile.
Ce serait peut-être
plutôt des étoiles pour moi. Je n'ai pas de liste en particulier. C'est vrai que c'est assez... J'ai jamais lu ce livre et ça m'intéresserait effectivement comme un texte poétique. Mais pas du tout comme un mode d'emploi, j'ai l'impression que...
Mais c'est pas un mode d'emploi, ça se présente comme un mode d'emploi, mais finalement, quand vous lisez, on découvre que c'est un texte qui déjoue le côté mode d'emploi. Et il y a un très beau passage sur les planètes, puisque quand vous avez fini de faire l'amour, vous devez aller sur une terrasse avec la personne avec qui vous avez fait l'amour, et vous devez lui enseigner toutes les planètes.
Voilà. C'est un peu le disque de Nicolas Comment. C'est un peu aller sur une terrasse et se laisser enseigner toutes les planètes par Rose Planète, en commençant par Rose Planète. On va écouter un morceau.
Très bien.
Poème des trois petits cochons, l'un avec une bite, l'autre n'avait qu'un téton, et le troisième une magnifique fente. Les trois étaient malheureux comme les pierres, pourtant seules jouisseuses en ce monde. Était-ce un verra, était-ce une truie, était-ce un ange porcin ? Firent en sorte que tout s'aboucha, s'imbriqua, s'emboîta, s'endonna, s'adonna, sabota, samedi quand tout apparut. Eugène Savitskaya à la Cyprina.
Des baisers échymoses, de la chair, de la prose, c'est ce que serait la bande-son d'une histoire à deux, Rose Planète, 12 chansons comme autant de séquences, Rose que l'on peut lire à l'envers, à l'inverse, et Rose. C'est un disque pour adultes, une ode à l'idéal féminin. On entre sur la terrasse ou dans la chambre des amants avec Nicolas Comment en direct au studio 108.
Nicolas Comment en direct de l'atelier intérieur d'Aurélie Chalon sur France Culture.
Je t'adore.
chez l'homme, la sexualité est presque toujours déchirante, très souvent, enfin, la réussite est rare. Tandis que chez le végétal, il y a quelque chose de parfaitement accompli. Et c'est par le fait que la fleur est complète, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un sexe ou l'autre, il y en a quelques-unes qui sont unisexuées, mais enfin, en général, oui. Les fleurs sont bisexuées, et elle n'a pas besoin de chercher autre chose. Il y a par exemple chez l'animal l'escargot, qui est un personnage extraordinaire.
Il a deux sexes.
Il est bisexué, mmh. Mais il a besoin de rencontrer un compagnon ou une compagne, enfin, et de s'unir deux fois.
D'ailleurs, c'est ce qui vous plaît, si je comprends bien, dans la fleur, c'est qu'elle n'a besoin de personne.
Elle n'a besoin de personne.
Vous faites l'éloge de l'onanisme, alors.
Pas du tout. L'onanisme, c'est un malheureux... une malheureuse consolation d'une moitié, n'est-ce pas, qu'elle soit féminine ou qu'elle soit masculine. Ouais. Et l'escargot, donc, est un
des... Il vous plaît, l'escargot.
Oui, parce que c'est une des bêtes les plus voluptueuses de la création. Ouais. La volupté de l'escargot est quelque chose d'extraordinaire. Leur amour double est immobile et silencieux, dure des heures.
Il prend son temps.
Est-ce que vous pouvez rappeler ce que ça veut dire Conchita Wurst?
I got the name Conchita by friends of mine, and they are from Cuba. And I asked them, how do you call a sexy Latina everybody wants to go out with?
Ça vient d'amis à moi, originaires de Cuba. Je leur ai demandé, comment vous appelez une Latino sexy avec qui tout le monde veut sortir? Ils ont répondu Conchita. Et je me suis dit, parfait, c'est ça. Ensuite, je voulais vraiment un nom très glamour. Mais rien ne m'est venu, donc j'ai choisi Wurst, qui est quelque chose qu'on mange, une saucisse.
A term for I don't care.
Mais en allemand, c'est aussi je m'en fous.
And this is also something that I wanted to say, you know, because I.
C'est aussi ça que je voulais dire.
So many people really have a
je me suis dit, ok, puisque tant de gens ont un problème avec l'idée d'une femme à barbe, moi je réponds, comment peux-tu imaginer dire à quelqu'un ce qui est bien ou mal?
They feel like being a bearded lady. Who are you thinking that you could say that's wrong?
Si je veux être une femme à barbe. Qui êtes-vous pour me dire que c'est mal ?
Conchita Wurst et Tom Neuwirth est une fleur, un escargot. Il a deux corps en un. Il est la femme à barbe qui avait remporté l'Eurovision. Il y a quelque chose de biblique, d'immuable dans son regard et son visage parfait. À 14 ans, il commence l'école de mode, à 17 le burlesque. Le cabaret lui plaît, il se découvre une voix de contre-ténor. Et après 1000 tentatives de différents corps, Conchita est née. Et une double identité, c'est la liberté d'un corps réécrite au jour le jour.
I've always been a very skinny boy, and it's basically genetic because my mom is very skinny, my grandmother is very skinny, and so the whole family is not really, you know, we are all basically skinny.
J'ai toujours été un garçon très maigre. C'est génétique. Ma mère, ma grand-mère sont toutes maigres, toute la famille. On est squelettique. Et à l'époque, à 15-16 ans, puis 18-20 ans, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je prenne du poids et que j'avais besoin d'aller à la gym pour devenir viril et attirer d'autres hommes.
When I turned 14 the first time, that was the first time when I started doing drag.
Mais à côté de ça, j'ai toujours fait la drag queen. La première fois, j'avais 14 ans. Au fil des ans, j'ai vécu ces deux évolutions parallèles. J'avais la vie de Tom, qui voulait devenir le plus masculin et viril possible. Et j'avais mon personnage de drague, qui me faisait entrer dans n'importe quel corps. Je me suis tellement amusé dans les clubs à faire douter les hommes. Ils ne comprenaient pas si j'étais vraiment une femme ou un homme. Et en 2011, j'ai décidé d'être une femme à barbe. Maintenant, je vis de ce que j'aime le plus, chanter et être une drag queen sur scène. Je me sens vraiment bien dans mon corps. Même quand je redeviens Tom, j'ai trouvé la meilleure version de moi-même. Mais ça a pris du temps d'accepter ce corps tout maigre.
Vous avez arrêté la musculation.
Exactly. I stopped working out, I think, 5 years ago. Because of my really sleek body, I gained muscles.
Oui. J'ai arrêté il y a 5 ans à peu près. Parce qu'avec ma morphologie, mes muscles gonflent très vite. On les voit tout de suite. Ce qui est super. Mais pas si tu es une femme sur scène. Enfin, c'est possible, mais mon personnage de Conchita est très fin. Donc j'ai arrêté la musculation. Et tout le monde me déteste. Je mange tout ce que je veux, sans grossir.
La première robe que votre grand-mère vous a offerte, elle ressemblait à quoi?
Oh, my first, I think my grandmother was the first person buying me ladies' clothing. And I think as
ma grand-mère a été la première personne à m'acheter des vêtements de femme. Et si je me souviens bien, c'était une jupe. Aujourd'hui, c'est romantique de se dire qu'elle a toujours pensé, bien sûr, donner à ce garçon ce qu'il veut. Mais non, en fait. Ça l'ennuyait vraiment et elle a baissé les bras. Donnez-lui cette jupe qu'on puisse passer à autre chose. Et à ce moment-là, elle n'avait pas conscience de ce qu'elle faisait. Ça a été le début de tout.
Et comment vous avez trouvé Conchita, ce personnage? Qu'est-ce que vous avez essayé avant? Quel déguisement? Quel corps différent?
Well, the period of time that I mentioned before, from 14 to 2011, that was a time where I always tried out different looks, you know, blonde hair.
Depuis mes 14 ans jusqu'à 2011, j'ai essayé plusieurs apparences, blonde, cheveux longs, cheveux noirs, tout. Et en 2011, j'ai essayé une nouvelle robe, mais à la maison, juste pour moi, pour m'amuser. Et j'avais une barbe. Je me suis regardé dans le miroir et j'ai pensé, waouh, en fait c'est super. Et c'est aussi simple que ça, je l'ai gardé depuis ce jour-là. Mais c'est parti d'une erreur, plus que d'une décision.
Cette barbe, maintenant, est-ce que vous pourriez imaginer la raser par exemple, l'enlever, ou est-ce que c'est devenu vraiment un masque dont vous avez besoin?
I had a whole week of being in the studio and I don't dress up as Conchita.
J'ai eu une semaine entière en studio. En studio, je ne m'habille pas en Conchita. Et il y avait une fête prévue.
So I decided to shave my beard and create a new character and I called her Eleonora White.
J'ai décidé de raser ma barbe et de créer un nouveau personnage. Je l'ai appelée Eleonore White. J'aime toujours me déguiser, changer, essayer de nouvelles choses.
Yeah, this is what I do.
Et est-ce que Tom et Conchita s'entendent bien?
Well, they do get along quite well. yeah, I really love making fun of that because
oui, ils s'entendent plutôt bien. J'aime bien rire de ça. Chaque fois en tournée partout dans le monde, j'ai mon équipe avec moi et au moment où j'enlève mon maquillage dans la chambre d'hôtel où on se retrouve tous pour dîner, je leur fais toujours la même blague.
Most of the time in my room to have dinner together and talk about the day. Actually, yeah, every time I do the same joke, like, you know, coming out of the bathroom without makeup.
Je sors de la salle de bain et je leur demande où ils sont passés toute la journée. Pourquoi ils m'ont laissé seul? Donc je joue avec.
Est-ce que vous savez toujours chanter la chanson de Titanic?
Sure, of course, I know My Heart Will Go On. I mean, that's
oui, bien sûr. Je sais, My Heart Will Go On, tout le monde peut la chanter, dès qu'on l'entend.
Sure you can, don't lie to me.
Mais oui, vous pouvez, arrêtez de mentir. Si cette chanson arrive en club à 5 heures du matin, vous la chanteriez.
Well, I mean, it's, yeah, of course. Near, far, this horn is driving me crazy. I couldn't hold the tone, I'm sorry, but you know.
Ah, ce klaxon m'empêche de trouver le bon ton.
Oh, now it stopped. Yeah. Well, lucky you.
Okay. Ah, et maintenant il s'arrête, vous avez de la chance.
Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you. Go on. And so on, you know.
Qui vous voulez attirer aujourd'hui?
Well, in the first place, I want myself to think that I'm sexy.
Avant tout, je veux moi-même penser que je suis sexy.
That's the first person I want to impress, that one in the mirror.
C'est la première personne que je veux impressionner, la personne dans le miroir. Thank you.
C'est un classique de la psychanalyse, publié chez L'Arche, 300 pages. Constance Larieux l'a lu pour nous. Wilhelm Reich, psychanalyste dans les années 20, brillant élève de Freud, dont il s'éloignera ensuite, publie « La fonction de l'orgasme » en 1927 en Allemagne, censuré puis réédité aux États-Unis en 1942. Constance Larieux, comment vous êtes tombée sur la fonction de l'orgasme ?
Alors c'est une histoire un petit peu, très simple. J'étais encore à l'école d'acteur à Cannes, à l'ERAC, et on travaillait avec un intervenant qui travaillait sur l'eutonie, c'est-à-dire une discipline qui permet de trouver le juste tonus dans le corps. Et un jour, il m'a donné cet ouvrage en me disant « je pense que ça va t'intéresser ». Donc je me suis sentie très mal à l'aise parce qu'on était 15 dans la promo, je me suis dit « il doit penser que je suis frigide ou je sais pas quoi ». Et j'ai ouvert le livre et je me suis dit « en fait c'est passionnant, il faut faire quelque chose avec ça au théâtre ». Parce que voilà, c'est la quête de quelqu'un de très très engagé, un psychanalyste, mais qui en même temps écrit de manière très lyrique et a passé 20 ans de sa vie à travailler sur l'orgasme, à faire des expériences. Voilà, il a fini complètement fou, il a inventé des machines à faire pleuvoir, il a été pourchassé par la CIA. Enfin voilà, il est mort en prison, ça a été un destin assez héroïque comme ça. Il y avait quelque chose de très théâtral et en même temps qui m'intéressait vraiment dans le sujet, de traiter de la sexualité au théâtre, mais de manière sérieuse.
Et c'est quoi sa définition à lui de l'orgasme ?
Alors, sa définition de l'orgasme, c'est vraiment, il dit que c'est le point culminant de l'acte sexuel, mais qu'en fait, ce sont des contractions involontaires agréables au corps qui permettent de décharger toute la tension contenue. Et toute la tension contenue, c'est-à-dire en fait, finalement, la névrose, pour résumer en gros sa théorie. C'est-à-dire que dans le corps, l'énergie qui n'est pas déchargée produit une sorte de stase, un noyau en fait, qui va provoquer une névrose qui elle-même à son tour va produire des symptômes.
Et on parlait de frustration tout à l'heure, ouais. Lui parle beaucoup d'angoisse.
Il parle beaucoup d'angoisse et évidemment son projet, au-delà d'être psychanalytique, finalement il considère l'orgasme comme un moyen de vaincre le fascisme et de... C'est presque une utopie d'une société idéale, quoi. Donc il parle beaucoup, lui aussi, de la connaissance. Il dit que justement, le travail, la connaissance et l'amour sont les sources de la vie et qu'ils devraient être aussi les forces qui gouvernent notre vie et que malheureusement, c'est pas le cas. Mais que si c'était le cas, on vivrait dans une société, un monde idéal, quoi.
On parlait de la jouissance féminine tout à l'heure et de justement la connaissance de cette jouissance féminine petit à petit. Et vous faites un petit historique au début du spectacle où vous êtes seule en scène. Et il y a un passage assez marrant qui décrit les premiers vibromasseurs dans les années 1880. Ils ressemblaient à quoi ?
Alors là, c'était vraiment des instruments de torture. Et c'est en particulier une scientifique qui s'appelle Rachel P. Maines qui a écrit tout un ouvrage qui s'appelle « Technologie de l'orgasme ». Et elle a été virée de l'université pour avoir écrit cet ouvrage, justement. Au départ, elle travaillait sur les machines à coudre. Et elle est tombée dans un muséum, sur des premiers vibromasseurs. Et c'était horrible parce que c'était vraiment comme des instruments à vapeur, à l'essence, qui fonctionnaient avec des manivelles, etc. Et donc elle donne toutes les gravures, en fait.
Pour des objectifs médicaux.
Oui, c'était vraiment l'idée de guérir l'hystérie, puisqu'on pensait que l'orgasme était, en fait, la manifestation de la crise d'hystérie, quoi. Donc c'était une manière de traiter les femmes et de, comme ça, d'évacuer les problèmes. Et puis bon, après, on s'est rendu compte que, finalement, c'était très, très utile.
C'était le massage de la vulve.
Le massage de la vulve, voilà, ouais, qui était pratiqué par les médecins de famille. Et c'était pas du tout... c'était absolument pas problématique, puisque de toute façon, comme la jouissance n'existait pas, enfin, on considérait qu'elle n'existait pas, du coup, c'était vraiment tout à fait légal de pratiquer ce massage, sauf que c'était très long. Et c'est pour ça que les vibromasseurs ont été inventés, pour éviter ces séances de massage d'à peu près 1h30, 2h.
Si vous avez lu le Kama Sutra, peut-être
voilà,
ça aurait été
plus
rapide.
Voilà, oui, peut-être, ouais.
Dans vers cette époque-là, 1880, c'est aussi le moment où on se dit que l'orgasme n'est pas utile pour la reproduction.
Oui,
l'orgasme,
c'est ça.
Féminin.
Voilà, exactement, parce qu'au départ, on pensait que oui, le plaisir permettait finalement de concevoir des enfants. Et puis, donc après, quand on s'est rendu compte que évidemment qu'on pouvait le dissocier totalement de la reproduction, là, tout à coup, on s'est dit bon, bah en fait, l'orgasme féminin ne sert à rien. Donc finalement, ça arrange bien les hommes, parce que si ça sert à rien, bon bah c'est pas forcément une obligation. Et puis ensuite, bon, il y a eu Master and Johnson. Enfin, il y a eu plusieurs scientifiques qui se sont penchés sur la question.
Master and Johnson, d'abord, c'est les années 60.
Oui, c'est un peu plus tardif. Ouais. D'abord, il y a eu Kinsey dans les années 40, 1940, qui lui a fait des expériences avec sa femme dans un grenier. Et là, il a vraiment recruté des gens comme ça. C'était de bouche à oreille. Et puis voilà, ils ont fait ces expériences dans le grenier pour documenter les pratiques et les savoir-faire. Et lui, ça a été le premier à dire que la sexualité pouvait évoluer au cours du temps. Donc à dire qu'on n'était pas forcément attiré que par un homme ou une femme, etc. Et ensuite, voilà, Masters & Johnson, là, ça a été le premier couple à travailler vraiment sur l'orgasme et à donner des courbes scientifiques et à définir les différentes phases qui rythment l'acte sexuel.
Eux, ils ont observé 10 000 à peu près.
10 000 rapports sexuels, ouais. C'est-à-dire à peu près, il y avait 700 participants qui, là, étaient mariés pour que ce soit un peu plus légitime. Et donc, ça faisait à peu près, oui, 30 rapports par couple qui ont été observés. Et puis, vraiment notés avec le chronomètre, machin truc, enfin, toutes les courbes. Et ensuite, ils ont publié leurs rapports et ça a été la base de la sexologie, sur laquelle on se fonde encore à l'heure actuelle.
C'est quoi le son de l'orgasme ?
Le son de l'orgasme. Alors ça, c'est une très bonne question, parce que justement, dans le spectacle, donc il faut que je précise que c'est une commise en scène, hein. Je ne l'ai pas fait toute seule, le spectacle. J'ai travaillé avec Didier Giroldon, qui est le co-metteur en scène, et avec un musicien et un vidéaste, David Bichindaritz et Jonathan Michel. Et on a cherché vraiment justement à trouver la musicalité de l'orgasme. Je ne pourrais pas dire qu'il y a un son de l'orgasme, mais en tout cas, il y a une espèce de courbe. Avec un début, une acmé et puis une descente. Et on a cherché musicalement, nous, à trouver comment ça pouvait s'articuler sans que ce soit trop illustratif, mais de trouver une version poétique et de considérer l'orgasme aussi comme de la poésie sonore.
On peut peut-être demander à Fellini un petit cours d'orgasme féminin.
Che c'è? C'è
la macchina.
Scena 38, due prima.
Mais alors, ma qu'est-ce que tu fais? Sérieusement, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Que tu veux faire? Dis-moi.
Ma sto prendendoti, chérie, ti sto prendendo.
Oddio, non lo sento più. Adesso lo sento, lo sento. Oddio, no, com'è che non lo sento più? Non lo sento più. Adesso lo sento, sì. Oh, per Dio, non lo sento più. Dove hai messo?
Lo sento.
Fellini sur le tournage de La Cité des Femmes. Un bon essai.
Super, mais justement, ça travaille sur la respiration. Et Reich, on parle beaucoup de la respiration. Si la respiration est libre, alors tout peut se produire.
On a commencé par parler de combat, puisque selon le Kama Sutra, l'amour serait un combat. Vous êtes seul en scène et à la fin, vous avez un peu l'attitude, la silhouette d'une combattante. Donc l'orgasme, ce serait aussi un combat, une lutte.
Oui, c'est aussi une lutte pour la liberté. Et effectivement, pour la connaissance, j'en reviens parce que moi, c'est ça qui m'a marqué aussi. Parce que justement, par la connaissance, on peut réussir à être conscient et donc à éviter le fascisme. Puisque tout le monde sait que l'ignorance est un terreau fertile pour la montée de tous les extrémismes. Donc, oui, je pense qu'effectivement, cette lutte, elle est très importante. Et on a aussi rencontré beaucoup de psychanalystes qui nous ont parlé de cette dimension de la lutte. Puisque l'orgasme, c'est pas juste les bisounours et tout va bien. Voilà, c'est vraiment l'idée aussi d'un conflit, mais d'un conflit positif qui permet une attraction des forces, quoi.
Vous parlez d'organisation politique, puisque sa théorie de l'orgasme se transforme en théorie politique.
Oui.
Et en... finalement, base d'une démocratie possible.
Oui, exactement, projet politique au sens large. Et donc, il fait beaucoup de parallèles aussi avec les arts, avec les différents arts. Et effectivement, il explique que si la société est pleine de gens névrosés, finalement, on a tous des carapaces, on est tous fermés sur nous-mêmes et on est incapables de communiquer et donc d'être en relation les uns avec les autres et donc de former des associations, qu'elles soient artistiques ou politiques ou enfin voilà. Et donc on est très seul. Donc voilà, c'est vraiment un projet humaniste aussi son ouvrage. Et l'orgasme, peut être aussi considéré comme un projet humaniste.
Il y a cette phrase, celui qui n'a pas confiance dans ce qui est vivant ou l'a perdu devient une proie facile pour la peur souterraine de la vie qui engendre la dictature. Ce qui est vivant est en soi raisonnable. Seule la connaissance du vivant peut bannir la terreur.
Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ce par quoi il conclut l'ouvrage. Ça, c'est vraiment la fin du livre. Et c'est aussi pour contrer tous les gens qui l'ont accusé. par rapport à toutes les expériences qu'il avait entamées. Voilà, c'est vraiment l'idée de, par la connaissance du vivant et notre fonctionnement physique, le fonctionnement du corps, on peut réussir à être libre dans la société.
Monsieur, nous allons bientôt commencer la leçon. Sincèrement, je suis toujours étonnée quand j'entends les gens se plaindre d'avoir trop de liberté. Ils ne sont pas du tout obligés de s'en servir. On y va ? Un, deux, trois, échauffement. Échauffement, messieurs. Bonjour, monsieur Pipeau. Monsieur Durandre, bonjour. Monsieur Baltavert. Enchanté. Allons-y. Maintenant, alors, voilà. Nous allons vous montrer la position. Allons-y, la fleur. Kamasutra, première leçon. Très bien. Gauthier, vous montrez. Nous joignons les mains devant le visage. Vous pouvez montrer Gauthier le mouvement, vous le connaissez très bien. Allez-y. Gauthier, parfait. Concentrez-vous.
Nous sommes passés à l'acte, toi et moi, avec de la confiture, du miel, des betteraves rouges, des compotes et du vin. Nous sommes faits pour le bonheur et non pour le malheur. Nous sommes passés à l'acte sans mesurer le pouls, ni nous laver les mains. La baignoire nous contient et nous contenons nos cœurs. Nous sommes faits pour le bonheur et non pour le malheur. Nous sommes passés à l'acte, toi et moi, dans la nuit blanche et noire de la forêt, dans le matin et dans le jour qui passe. Nous sommes faits pour le bonheur et non pour le malheur. Nous sommes passés à l'acte, toi et moi, la main dans la main, comme fleur dans la tige, ta bouche sur ma bouche, mon nez sous le tien. Nous sommes faits pour le bonheur et non pour le malheur.
Nous n'avons pas résisté à ces quelques poèmes d'Eugène Savitskaya, à la Cyprine vient de sortir. Avant minuit, nous montons au paradis avec Nicolas Coman, Milo McMullen et au piano Marc Haussmann.
Assis en lotus dans la chambre où j'avais voulu vivre hier, ivre d'un vouloir violent à déplacer les montagnes, me souvenant du jour où à 20 ans j'avais noté dans un carnet quelque chose de cet ordre: Vinu, vivalable, toute table, Vishnu, vital. Allongé maintenant sur les coussins rouges de la chambre, où je ne me trouve pas seul, bien qu'éveillé à l'heure où tout dort, j'aperçois à travers la neige fine, rivière de diamants dans l'air, comme dans les images d'archives de la NASA. Je veux dire, en apesanteur, l'outillage des spationautes, j'aperçois à travers le liquide en suspension, derrière les rideaux perlés, l'étoile. L'étoile. Vénus. Vénus venue, plantée, piquée sur le noir de la nuit, comme un vaisseau spatial, un objet volant non identifié. Vénus. pin-up punaisé sur le noir de la nuit, comme un vaisseau spatial.
Nicolas Comand sera le 5 mai à la Maison de la Poésie. Vous écoutez France Culture, il est minuit.